France Inter. Karine Bécard, le 6-9 de l'été.
Et on retrouve Jérôme Val pour la revue de presse. Et la presse nous parle de Beyrouth, évidemment, ce matin, une nouvelle fois frappée au cœur. Les images d'une capitale dévastée sont impressionnantes dans les journaux du Moyen-Orient.
Oui, partout ces bâtiments éventrés, les gravats qui s'accumulent, de longues colonnes de fumée noire qui s'élèvent dans le ciel. L'Apocalypse titre L'Orient le Jour, le grand quotidien libanais qui montre aussi à sa une un blessé en sang évacué sur le coffre d'une voiture. Que dire ? Qu'écrire après cette catastrophe, s'interroge le journal. Dans un Liban déjà à genoux, poursuit L'Orient le Jour. Hier soir, nous étions tous totalement sonnés par ce énième coup du sort. Chez le voisin et ennemi israélien, ce drame fait aussi les gros titres de toute la presse. Israël Hayom, le quotidien le plus lu, mentionne d'emblée que l'État hébreu a très vite nié toute implication. Et comme le précise le Yediot Aharonot, il a proposé son aide humanitaire alors que les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Enfin, pour le journal de gauche Haaretz, cette catastrophe met la pression sur le Hezbollah qui dispose sur le port détruit de nombreuses caches d'armes. La presse française, elle aussi, relaie le chaos vécu dans la capitale libanaise. Le Liban endeuillé pour le Parisien, Beyrouth meurtri pour Libération, scène de guerre par Beyrouth, titre Vaucluse Matin. Dans les pages de vos journaux, vous lirez les récits des habitants apeurés, hagards, beaucoup blessés par les bris de verre des vitres de leur appartement. On dirait la bataille de Stalingrad, raconte un Beyrouthin de 60 ans au Parisien.
Il y a un an tout juste, le Cachemire, région au nord de l'Inde, perdait son autonomie et depuis, les exactions sont devenues la norme.
Il est difficile de savoir ce qui se passe vraiment depuis le 5 août 2019 dans ce territoire à majorité musulmane. Aucun journaliste étranger ne peut s'y rendre, les communications téléphoniques ont été coupées, Internet suspendu, mais les témoignages recueillis par le journal Le Monde donnent une idée assez précise du cauchemar vécu par les habitants. Le Cachemire a connu trois guerres depuis la partition entre l'Inde et le Pakistan en 1947. Il bénéficiait d'un statut particulier jusqu'à l'année dernière et la reprise en main forcée par le gouvernement de Narendra Modi. Des tensions arbitraires des opposants et militants, tortures généralisées. Au camp militaire, ils m'ont sanglé sur une chaise et mis un chiffon dans ma bouche. Ils ont commencé les décharges électriques sur mes parties génitales, mes bras et mes jambes, raconte au quotidien Abid Khan, 21 ans. New Delhi a expliqué que cette perte de l'autonomie permettrait le développement économique de la région. Nous sommes tous sans travail, constate un batelier sur les rives du lac Dal. Le gouvernement nous a poignardés dans le dos, poursuit un ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cachemire. Depuis un an, continue Le Monde, la haute cour de la région n'a même pas pris le temps d'étudier les 600 requêtes pour violation des droits fondamentaux.
Revenons en France, tout autre chose, les beaux-pères sont apparemment plus nombreux que les belles-mères.
Alors ce qui paraît assez logique, puisque dans les séparations de couple, les enfants sont majoritairement confiés à la mère. Avec et une étude de l'INSEE relayée par le Parisien le confirme. La France compte en effet presque trois fois plus de beaux-pères que de belles-mères, 584 000 contre 212 000. Des hommes qui doivent s'adapter dans ces familles recomposées comme Chang, devenu depuis 6 ans le beau-père de Clarence. Fondateur du blog Parentalité Zen, il raconte dans le journal comment il n'a jamais eu la prétention d'être un père pour l'enfant, encore moins de le remplacer. Certains hommes font parfois cette erreur, constate-t-il. Autre chiffre à lire dans le cahier Île-de-France du Parisien, toujours celui du loyer moyen pour un studio étudiant dans la capitale. 835 euros par mois, 100 euros de plus si le logement est meublé. C'est une hausse de 2% par rapport à l'année dernière, résultat d'un baromètre du site d'annonce immobilière Se Loger à un mois de la rentrée universitaire.
Le magazine Le 1 débute une série sur un trio gagnant des bonnes tables françaises.
Avec avant le vin et le fromage, premier épisode consacré au goût du pain, élément aliment universel par excellence et si important chez nous. La France, ce pays où notre fameuse baguette, écrit Sophie Guérardi, est un mélange de produits, de savoir-faire, de corporatisme, de dirigisme et d'illusions, rien que ça. On pourra lire dans l'hebdomadaire une interview croustillante de l'universitaire américain Steven Kaplan, spécialiste de l'histoire du pain en France. On y apprend que la mode du pain blanc est née dans l'après-guerre pour effacer le souvenir du pain noir de l'occupation et des tickets de rationnement. Le blanc redevient alors la couleur de la pureté au détriment du goût. Et ce n'est que dans les années 90 que les boulangers réinventent une baguette plus savoureuse, la fameuse baguette tradition, qui se déguste bien cuite, nous conseille dans le 1 un meunier d'Eure-et-Loire. Et comment, Karine, ne pas finir avec cette citation de Pierre Dac en exergue dans l'hebdo. Une loi interdira que les citoyens se bourrent de pain. Cela leur évitera d'avoir de la brioche.
Pour conclure cette revue de presse, une incroyable histoire d'enfants tibétains accueillis en France.
Une histoire gardée secrète pendant presque 60 ans et que la Croix exhume dans une grande enquête que vous retrouvez sur son site internet. 20 enfants tibétains qui ont atterri à l'aéroport d'Orly le 19 octobre 1962. Ils ont entre 5 et 10 ans et c'est le Dalai Lama en exil en Inde pour fuir l'occupation chinoise qui organise l'opération avec le soutien de la France du général de Gaulle. Aujourd'hui, 8 d'entre eux sont toujours dans notre pays, 7 en Suisse, 1 au Royaume-Uni, 1 autre au Canada. La Croix en a retrouvé certains comme Gemella, 9 ans à l'époque. Je ne savais pas ce qu'était la France. On m'avait dit que j'avais été choisi pour y aller, que c'était propre et qu'il n'y avait pas de maladie. Et c'est tout, conclut-elle dans le journal. Alors pourquoi un tel voyage? Le Dalai Lama s'était lié d'amitié avec un amiral français, fils d'un sous-préfet corse qui a servi d'intermédiaire. Mmh. Et le leader spirituel avait une ambition pour ses enfants qui ont coupé les ponts avec leur famille. Étudier en France pour devenir l'élite d'un Tibet indépendant. Projet qui ne verra jamais le jour, mais on ne retrouve aucune amertume chez ces Tibétains dont l'exil est devenu définitif. Dans le bouddhisme, dit l'un d'entre eux, il n'y a pas cette histoire de regret. Le passé, on ne peut pas le changer.
Merci Jérôme Valle.